Bonjour, aujourd'hui en version express, la rencontre à livre ouvert avec la grande Pauline Marois. C'est moi aujourd'hui qui ai envie de crier, la vie est belle, Dieu que je suis content de l'avoir rencontrée. Et à vous, si vous suivez la version express, vous allez pouvoir, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, cliquer sur « j'aime », s'abonner, faire des pouces en l'air, des petits commentaires, ça aide la balado à être plus connue. Si jamais vous dites « j'aimerais ça l'avoir au complet », c'est disponible en mode intégral également. Bonne émission.
Balado, épisode 18. Pauline Marois.
3, 2, 1. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, pour ne pas la nommer Lise Payette, elle dit, écoute, si tu mets de côté tout ça, là, puis achète-toi un tailleur gris, noir, là, puis elle dit comme ça, ils vont arrêter de t'embêter avec ça et ils vont t'écouter.
Réveille-toi comme une bonne sœur, puis ils vont t'écouter.
À peu près.
Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Pauline Marois, bonjour.
Bonjour, Monsieur Charon.
Bienvenue.
Ça fait plaisir.
On envoie toujours aux invités un formulaire, vous avez rempli.
Oui.
Le titre... Je m'ai toujours invité. Vous avez corrigé le titre. Et vous avez mis « Travailleuse sociale ».
Oui.
Donc, j'ai devant moi l'ex-PM ou Pauline, la travailleuse sociale.
Vous avez les deux, c'est ça qui est formidable.
Ça, c'est cool. C'est un deux pour un.
C'est ça. Mais oui, travailleuse sociale, parce que j'ai remarqué que je ne suis pas membre de la corporation. Je ne peux pas utiliser le titre. Mais c'est ma première formation. Et c'est celle qui, je crois, m'a le plus aidée à faire ce que j'ai fait dans la vie.
Ça a guidé, hein?
Ouais, ça a guidé beaucoup.
Parce qu'on a passé, vous le savez pas, mais on a passé la fin de semaine ensemble.
D'accord. ça me fait plaisir. J'espère que ça n'a été pas trop désagréable.
Il faut que je le relise parce que, sachant que je vous rencontrais, j'ai eu peu de temps pour lire.
D'accord.
J'ai lu Expresso un peu et je pars en vacances la semaine prochaine. Et là, je vais repartir ça à page 1
ça,
lentement.
C'est bien.
Pour décanter. L'égalité des chances, ça vient très tôt des parents parce que... Bon, déjà, c'était une autre époque, mais il n'y avait pas des gars ou des filles, il y avait des tâches, puis c'était des enfants, puis bon.
C'est ça. Dans la famille, c'était vraiment ça. Et ça, c'est une richesse incroyable. Parce qu'on soit gars ou fille, on faisait nos lits, on se ramassait, on faisait la vaisselle, on aidait maman quand c'était nécessaire, on aidait papa quand c'était nécessaire. Et eux, ils vivaient de façon assez traditionnelle les rôles de l'homme et de la femme, du mari et de la conjointe. Mais... c'est-à-dire, à l'égard de leurs enfants, il n'y avait pas ça. Ils ne nous demandaient pas de vivre des rôles traditionnels.
Ce qui était moderne, là.
C'était très moderne, parce que quand même, là, il y a 70 ans, hein, pour quand
oui,
le dire.
Si on avait la chance ou la malchance de mettre la main sur des manuels scolaires de l'époque, c'était assez typé, là. La fille,
elle est gentille, elle met la table, elle enlève la table, pendant que le petit garçon Luc ou Yves ou je ne sais pas trop...
Elle prenait ses écoles.
Oui, il jouait dehors avec ses amis. Et on a encore, d'ailleurs, dans beaucoup de livres, manuels et tout, moins stéréotypés, si on veut, mais on a encore des relents de ça. Oui.
Avant la politique, c'était le sport qui vous intéressait plus.
Oui, oui. En plus, j'ai joué au ballon-ballet, j'ai joué à la balle molle. Oui, j'aimais ça. J'aimais ça beaucoup.
Tomboy?
Pas vraiment.
Okay.
Non, pas vraiment. Mais c'était, je pense, l'équipe. Jouer en équipe. Pour moi, ça a toujours été très important aussi pour moi. Alors, jouer en équipe, jouer à la balle molle et puis on compétitionnait. Je suis un peu compétitive, j'avoue. Faut que je le dise quand même. Je sais pas si ça ressort un peu dans la bio, mais je le suis quand même. J'aime mieux gagner que perdre, même si j'ai perdu quelques fois quand même. Alors oui, j'aimais le sport. Ballon-ballet, j'étais gardienne de but.
Ah ouais.
Ouais, puis je suis allée en finale et puis on a perdu à la finale. Alors j'ai pleuré donc je sais pas, j'étais adolescente et tout.
Comme tout le monde de votre génération, un moment marquant c'est Expo 67.
Oui.
Je suis jaloux de pas avoir. J'aurais rêvé de vivre ça parce que
il faudrait que vous soyez plus âgé un peu.
Ouais,
là.
Mais c'est pas grave. Le prix à payer pour vivre Expo 67 serait correct parce que j'ai l'impression que on est le Québec a comme jumpé de 10, ouais. 20 ans en avant, on s'est ouvert sur le monde.
Absolument.
Vous avez pris le métro pour y aller.
Pour la première fois, c'était pour la première fois pour beaucoup de Montréalais et de Québécois aussi. Hein. Et moi, j'étais absolument fascinée. Un peu comme mon père. Mon père était cet homme qui aimait découvrir des nouvelles choses, avoir, faire de nouvelles expériences. Et c'est lui qui nous entraînait dans ces événements-là. Alors, écoute, quand il a su qu'il y avait à voir l'expo, c'était un incontournable.
La tente roulotte chez ma tante à Longueuil.
Il allait amener toute la famille voir Expo 67. Et lui-même, je pense qu'il avait plus d'étoiles dans les yeux que nous, les enfants, on en avait. Il était fasciné. Il fallait faire tous les pavillons, essayer le petit tram là, qui se promenait au-dessus du terrain de l'expo, aller dans les pavillons thématiques. Je me souviens, il y avait ce film en cinémascope là, enfin, qui faisait les 360 degrés. C'était impressionnant, etc. Mais oui, c'était la rencontre du monde. Découvrir d'autres cultures, d'autres histoires, d'autres états. Et moi, c'était un moment magique.
Et c'est là que vous avez pogné une de vos piqûres qui est de voyager.
Oui, mais ça, peut-être qu'elle était là même avant.
Okay.
Ouais, parce que mon père rêvait de voyager. Il n'avait jamais pu le faire parce qu'il n'avait pas les moyens.
Autre époque.
Quoi qu'on leur a payé, mon conjoint et moi, on leur a payé un jour un voyage en France. Alors, je peux vous dire, écoutez, c'était le voyage de leur vie avec une petite Renault qu'ils avaient louée. Ils sont allés en Normandie, c'était formidable. Mais mon père rêvait de voyager. Et donc, c'était dans ma tête, déjà, ce goût-là.
Puis, aller à la rencontre du monde, ça prend un partenaire. Vous avez eu une chance extraordinaire de rencontrer votre chum au secondaire.
Oui.
C'est pas rien de passer une vie avec quelqu'un. Hein.
Ouais.
C'est quelque chose.
51 ans.
Est-ce que j'ai compris, en lisant le livre, que vous avez eu juste un flirt avant lui?
Oui, c'est ça. Peut-être.
Lui, il était témoin en plus de ça.
En plus, parce que c'était un de ses amis.
Lui, il était comme en train de tomber en amour avec vous, puis vous sortiez avec l'autre.
C'est ça, en plein ça. Oui, c'est fun. Hein? Fait que, ce qui fait que quand l'autre m'a lâché, lui m'attendait. Mais c'est très vrai, hein? C'est très vrai. C'est des amours de village. Lui demeurait à un bout du village, moi à l'autre. Sa jeune sœur d'un an plus jeune que moi était à l'école avec moi, à l'école primaire. Puis déjà, j'organisais des petites activités, ça s'appelait les croisillons à l'époque, là. C'était l'ancêtre de la JEC, jeunesse étudiante catholique. Pas l'ancêtre, c'était les premières étapes avant d'arriver à la JEC. Puis j'organisais des petites rencontres à la maison pour qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on pouvait faire comme animation dans notre école. Et son frère, le frère de Francine, qui avait donc 3 ans de plus que moi, déjà commençait à conduire, non? Parce que dans les villages, hein, vous savez qu'on était jeunes.
Uh-huh.
Et puis, je l'avais vu de loin. Puis après ça, je suis devenue amie avec un de ses copains. Ils étaient une petite gang de gars ensemble. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Mais autrement, mes parents se connaissaient. Hein? Son père avait des stations d'essence, des gaz-bars, comme on dit. maintenant, mais à l'époque, on disait stations d'essence. C'était les ancêtres des dépanneurs, d'ailleurs.
Ouais.
Et puis nous, on était à l'autre bout du village. Lui vendait de l'essence. Mon père était mécanicien. Est-ce qu'il y avait comme une espèce de petite communauté de pensée, quelque part? Alors, donc, oui, c'est des amours de village, des amours qui sont nés au secondaire, mais un secondaire un peu plus avancé. Après que Roger m'ait laissé tomber, quand même. Bon.
Claude est bien content, finalement.
Très content.
quand on a écrit cette biographie, on doit se poser un million de questions, puis... J'avais un petit sourire en quoi, comme plusieurs, en lisant. Ouais. Moi, je suis une fille prude, puis je me suis ramassé avec mon chum à Québec. Puis, dans le temps, tout le monde faisait du parking, mais c'était les années, hein, justement, le chaperonnage, fait qu'on se cachait dans les voitures.
C'est ça.
Tout le monde allait aux plaines d'Abraham. Non, moi, on partait, mais on allait d'un rang. Je ne vais pas me faire pogner par la police.
C'est en plein ça.
C'est sûr que la vie est remplie d'anecdotes de même.
Oui.
Comment justement on arrive à juger quand on écrit un livre? Je dis tout ça, je dis pas ça. Genre, c'est le fun de mettre un peu de piquant, mais bon, où je vais, où je vais pas.
Et comment on choisit ça? Ben, les événements qui ont eu une importance dans ma vie, qui ont joué un rôle pour moi, sur moi, comme par exemple quand on allait dans les rangs, Frenchy, entre guillemets, on rêvait la vie à venir. C'était pas seulement de serrer, de donner des câlins et tout. On échangeait beaucoup. sur comment on voyait ça, si on allait vivre ensemble, si un jour on fondait une famille. C'était hypothétique à ce moment-là, évidemment, ouais. Mais on s'aimait, puis on pensait que c'était plausible, que ça puisse arriver. Et c'était vraiment un échange qui allait beaucoup plus loin que « je te donne un bec, puis c'est bien, bien agréable ». C'est quelle sorte de vie on veut vivre.
Vous êtes la fille à gauche qui veut sauver le monde.
Absolument.
Lui, plus jeune, justement plus capitaliste, veut faire des sous. Rapprocher ça, il y a certainement eu deux, trois belles discussions à un moment donné.
D'énormes discussions. D'énormes discussions. À ce point que c'était devenu un enjeu pour notre couple, pour notre vie de couple. Nous étions mariés. Lui travaillait pour une grande entreprise dans le développement immobilier à Ottawa. Moi, je travaillais à Hull, dans les organismes communautaires, les organismes d'entraide, les ASEF. Faisait de la défense de droits des consommateurs.
Les ASEF qui existent encore, qui aident les gens à faire
toujours.
Leur budget. Si tu vas pas bien, que tes finances sont mal prises, tes appels, ils vont t'aider.
C'est exactement ce que je faisais à ce moment-là. Jeune animatrice sociale, j'arrivais au travail. Et puis, on faisait de l'éducation populaire aussi. Hein. On défendait déjà les droits des gens qui étaient brimés ou opprimés. Alors, à un moment donné, il y a eu effectivement des frictions entre nous. À savoir, je dis, moi, je suis heureuse avec toi, je t'aime, on est bien, on n'avait pas d'enfant. On évaluait le fait d'en avoir ou pas, quand, bon, mais c'était pas encore fermement
décidé. Ça aussi
qui
était moderne, ça vous a pris 8 ans avant d'avoir l'enfant.
Oui, parce qu'on voulait vivre notre vie, puis vivre des expériences, et surtout moi, je tenais à ce que on partage les tâches. À ce que chacun se sente responsable et que et les tâches partagées dans le sens non traditionnel.
Ce que ça j'avais
vécu.
Famille, là,
ben oui, ce que j'avais vécu dans mon enfance. Alors, et donc, il y a eu des débats assez houleux entre lui et moi. Je dis, moi, je ne peux pas vivre avec quelqu'un dont l'objectif, c'est de faire des sous et qui n'a pas un engagement au-delà de cela pour aider à la société dans laquelle on se trouve. C'est un homme talentueux, c'est un homme qui a beaucoup, beaucoup d'imagination, un développeur, un fonceur, un défenseur de porte. Mais j'ai dit, tu sais, il me semble que tu devrais être capable aussi de t'engager, de poser des gestes pour aider ta collectivité. Puis que, parce que c'est pas vrai que moi, je vais faire tout ce que je fais, me batailler pour l'égalité des chances, lutter contre la pauvreté, défendre les droits des consommateurs. Puis toi, tu vas être en train de faire des sous, puis comme si le reste n'existait pas. Ouais. Alors moi, il faut que je sois cohérente. Faut que je sois capable de dire, dans ma vie personnelle aussi, il y a une forme d'engagement de mon conjoint à l'égard de l'aide à la société. Donc, nous étions en harmonie. C'était agréable.
En harmonie, liberté, ce qui fait en sorte que quasiment toute votre vie, vous aurez joué au chat et à la souris. Lui, il y a une job dans une ville, vous débarquez, vous le suivez. Finalement, il est transféré, il s'en va ailleurs.
Ouais.
Fait que vous aurez été amoureux de fin de semaine quasiment toute
Absolument.
Votre vie.
Mon mari dit toujours, nous, on a vécu ensemble 3 ans, 3 mois, 3 jours.
Si on les bras collés.
Oui, parce que c'est vrai, pendant toute notre vie professionnelle, on a chacun eu des responsabilités importantes et on a vécu dans des villes différentes. Alors, on vit ensemble depuis maintenant 3 ou 4 ans, vraiment.
Ça se passe bien, oui.
Ça se passe très, très bien.
Mais probablement causé par le fait que lui est le gars et que vous étiez la fille. Parce que je me faisais la réflexion en lisant... Notre premier ministre actuellement est un homme d'affaires qui a réussi, puis là, on est tous fiers de tout ça, puis c'est le fondateur de Transat, puis il y a des sous, il y a de l'argent, puis il y a Paul Martin était riche comme Crésus, et on parlait toujours de sa richesse, puis c'est comme s'il aurait fallu que vous soyez pauvre.
Ouais, c'est assez...
Le monde aurait aimé ça que vous soyez pauvre.
C'est assez...
C'est comme malsain que vous ayez de l'argent.
Ouais,
alors que ça vous amenait une liberté. Je comprends pas.
On me l'a reproché d'ailleurs. Puis c'est comme si je pouvais pas être une progressiste. Je pouvais pas être une social-démocrate puisque j'avais de l'argent. Et une femme avoir de l'argent, c'est moins bon. Comme une femme avoir de l'ambition, c'est moins bon qu'un homme.
La grosse maison, les foulards.
C'est ça, exactement. Alors que dans le fond, me dis, c'est pas une fortune exceptionnelle, là. C'est, on vit bien, puis on a des moyens. Puis je me dis, au contraire, ça aurait dû justement être perçu comme étant un plus, puisque j'étais pas susceptible de subir de pression pour...
Ben pleinement. vous êtes moins achetable que le voisin.
Oui, c'est ça. J'espère que personne ne l'est, là, dans la politique, mais il arrive parfois que... Ouais. Alors, donc, j'étais libre de ça. En plus, je pouvais faire mes choix. Tu sais, je faisais jamais des choix en fonction de dire, ben là, si je fais ça, ça va me rapporter plus, ou je vais être en contact avec plus de monde qui vont m'être... Non, jamais, je n'ai pensé ça. Mais c'était comme une... On voyait ça comme une incompatibilité. Une progressiste qui avait des sous.
Mais il n'y a pas beaucoup de gars qui ont eu, et je suis convaincu que vous avez eu trop souvent cette discussion-là, qui ont eu la discussion de dire « Ah, je vais me mettre un habillette demain, comme ça, je vais mieux passer. » C'est d'une tristesse, ça, non?
Ouais, ouais. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, pour ne pas la nommer Lise Payette, elle dit « Écoute, si tu... mets de côté tout ça, là, puis achète-toi un tailleur gris, noir, là, puis elle dit comme ça, ils vont arrêter de t'écœurer, pardon, ils vont arrêter de t'embêter avec ça, et ils vont t'écouter. »
Habille-toi comme une bonne sœur, puis ils vont t'écouter.
À peu près. Alors donc, j'ai abandonné les fouleurs, les bijoux. J'ai eu toujours la même coiffure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant les 5-6 dernières années, toujours coiffée de la même façon. Un tailleur marine, un tailleur noir, un tailleur brun, un tailleur gris. Remarquez que c'était beaucoup plus facile, par contre.
Oui.
mais moins, un peu moins agréable. Mais sauf que j'ai oublié ça de telle sorte que je me suis dit, comme ça, on va arrêter de me parler de ça. Tu sais, puis on pensait toujours que c'était des tailleurs très, très, très coûteux. Dans certains cas, un peu plus, parce que j'ai encouragé, entre autres, des créateurs québécois. Michel Desjardins a été souvent un de ceux qui m'a habillé. Puis bon, c'était des belles choses, très classiques et tout. Alors, j'ai décidé que je mettrais ça de côté, de telle sorte que on ne m'interpellerait plus sur ces questions-là.
Le jaune, c'est le besoin d'influencer, d'être tourné vers les gens. Vous avez beaucoup de gens, vous avez 75, donc un grand besoin d'influencer. Puis une recherche active du plaisir. Pour vous, le plaisir, c'est important.
Très. Parce que c'est ce qui rend la vie belle. C'est le titre de votre balade.
La vie est belle.
La vie belle. Oui, c'est important parce que Moi, je donne un cours sur le leadership. Je donne une séance dans un cours sur le leadership.
L'école d'entrepreneurship de Beauce.
C'est avec...
Ah oui, c'est vrai, c'est longtemps.
Avec Concordia.
Oui.
OK? L'Institut du leadership. Oui. Et c'est tout en français, là. Bon, et ce sont tous des jeunes, ou moins jeunes, entrepreneurs ou gestionnaires dans le secteur privé et public, les deux. Et je termine toujours ma présentation en disant ceci. Une fois que je vous ai tout dit, ce que moi, je voyais devait être les caractéristiques d'un bon leader, je vais vous dire une chose qui sort de ça. Ayez du plaisir dans la vie.
Faites du fun.
Aimez ce que vous faites. Faites-le avec passion. Je comprends que parfois, c'est alimentaire, comme on dit. Vous devez gagner la vie. Puis, c'est un chemin que vous avez choisi. Puis, vous vous rendez compte que ce n'est pas nécessairement le bon pour vous. Essayez de faire en sorte que vous puissiez réorienter votre carrière, réorienter vos choix. On ne fait bien ce que l'on fait que quand on aime le faire, quand on le fait avec passion. Alors moi, je crois qu'il faut avoir du plaisir dans la vie. J'ai toujours dit ça à mes enfants, d'ailleurs. Choisissez le métier que vous voulez, choisissez la profession que vous voulez. On vous dira pas quoi faire, mais choisissez quelque chose qui va vous rendre heureux.
À la base, puis ce que j'aime de Nova, c'est que si on est juste dans les couleurs, on peut quasiment être caricatural, parce qu'on peut dire, bon, c'est un énerveux qui veut convaincre, puis il est un peu rebelle. Mais les motivations, ça parle, et ça fait quelques années que je regarde des profils Nova, j'ai rarement vu quelqu'un qui avait cette motivation-là aussi forte. Vous avez 98 à l'altruisme.
Oh, wow!
Fait que ça, là, ça, l'humanisme, le don de soi, l'entraide, vouloir.
Ça, là, d'abord, je suis d'accord avec l'évaluation que vous... c'est-à-dire la conclusion que vous tirez
mais c'est dans
de
le
ça.
Tapis rare, là.
Oui. Il n'y a rien à faire. C'est fondamental.
C'est non négociable.
Si quelqu'un est mal pris, je vais penser à comment je peux l'aider. Mes enfants vivent des difficultés. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux t'accompagner, etc. Je me suis retrouvée dans des situations où les gens étaient... il y a une de mes amies, ça fait très, très, très longtemps de cela. J'étais jeune mariée, j'avais 20 ans. J'étais encore à l'université. Puis il y a une de mes amies qui s'est trouvée avec un conjoint violent. Je m'en suis rendu compte, évidemment. J'ai posé quelques questions, oui, etc. Ben, je l'ai amené vivre chez nous, dans un petit appartement de 3 pièces, avec mon mari, parce que nous étions mariés. Parce que je trouvais qu'il fallait qu'elle sorte de là, que ça n'avait aucun sens. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de maisons pour femmes en difficulté, puis femmes violentées, etc. Puis elle était enceinte, en plus, pour finir le plat. Alors, je l'ai amenée chez moi. Mon mari, puis en plus, on va se le raconter. Ah, oh, mon Dieu, si elle m'entend, elle va rire. Elle était végétarienne, ce qui était,
pour l'époque,
à l'époque, était extrêmement rare.
Il n'y avait pas un comptoir à l'épicerie là, où c'était
non,
facile. Là.
Non, non. Alors là, je voulais lui faire plaisir. Ben, elle est enceinte. Fait que je faisais des plats.
Des quoi?
Je raconte ça, j'ai oublié.
Des
plats de végétariens.
OK.
Avec des légumes superposés, etc. Mon mari détestait ça.
You, mon steak.
Non, il n'y a pas tellement de viande, mais il était plutôt poisson et crustacé. Mais il haïssait ça. Mais moi, pour aider Marie, n'importe quoi, c'est pour l'aider. Je trouve
que ça Claude a eu sa période légumes à cause d'elle.
C'est ça. Mais ça, je trouve que ça traduit bien ce que vous décrivez de moi. Puis, ça ne sert à rien. Je craque devant les gens qui sont dans la misère, qui ont de la difficulté. Je voudrais tous les prendre dans mes bras puis essayer de les aider.
Votre dernière motivation, parmi les plus fortes, puis c'est là où quand j'ai vu ça, je fais « Oh, de pas toujours négociable, la madame », dans le sens que vous avez l'idéologie très forte. Très. Ça veut dire que vous êtes bâti sur un système de valeurs, puis vous cherchez à améliorer le tout dans sa globalité, et vous avez un code d'éthique très fort. Fait que si on mélange l'altruisme et l'idéologie, si vous êtes devant un sujet qui va rejoindre vos idéaux et qui va aider le monde...
On ne doit pas
être capable de vous faire changer d'idée.
Non. J'avoue,
c'est là où vous devez être intraitable, vous devez être carré, dire non, ça va se passer.
Je suis complètement intraitable. D'ailleurs, quand je vous rappelle cette histoire des jeunes, qu'on sortait de l'aide sociale puis qu'on envoyait sur le terrain, à un moment donné, dans mon caucus, les députés du parti, j'étais dans le gouvernement de M. Lévesque à l'époque, souvenons-nous, autour des années 83-84, ça n'allait pas assez vite parce que les jeunes, ça prenait du temps à faire ça. Là. On changeait complètement de paradigme, on allait dans une autre perspective. Là, je me faisais planter, excusez l'expression, expression qu'on utilise dans notre jargon, je me faisais planter au caucus parce que je n'allais jamais assez vite. Puis il aurait fallu avoir 25 000 jeunes placés. Alors là, j'ai dit, je m'excuse, mes amis, là, mais je suis pas des cannes de tomates.
Hein? Ben c'est non,
c'est
oui,
du
effectivement.
Monde. Puis c'est pas des cannes de tomates qu'on place dans les étagères chez Steinberg, parce que Steinberg,
oui, c'est vrai, chez Dominion.
C'est ça. Alors, on va prendre le temps qu'il faut, on va atteindre nos objectifs, mais je veux pas qu'on pervertisse le programme. Mais on était sur les enfants qui arrivent en même temps que les gros ministères, mais là, le dernier, Jean-Sébastien, quand je les nomme, je les mêle toujours. Mes enfants, ça les déprime, mais on dit on t'aime comme ça. Alors, Jean-Sébastien va arriver 3 semaines avant que je me présente à la course au leadership suite au départ de M. Lévesque. Il naît le 6 juillet. Et puis probablement, quelque part, au début ou au plus tard, je vais annoncer ma candidature comme... À l'élection, à la présidence du Parti québécois.
Et tout ça a pu se faire aussi parce que votre Marie-Claude, vous l'appelez le père-mère.
Oui, le père-mère. Écoutez, c'est un
beau titre.
Oui, c'est formidable. Puis le père-poule et tout ça, il y a tout ça. Là. Puis il avait une grosse job, hein. Il était très occupé. Bon, évidemment, il y avait moins la partie publique là, que moi, j'avais à assumer. Mais il était un père formidable. Et si je ne l'avais pas eu non plus, on parlait de M. Lévesque tout à l'heure qui avait donné un coup de pouce parce qu'il avait souhaité que je me présente. Et puis, il me l'avait dit. Il ne me connaissait pas beaucoup, mais il me connaissait par personne interposée. Et mon mari, lui, m'a toujours encouragée. Toujours. Même les jours où, genre, ah non, je ne ferai pas ça. Je ne vais pas là. Écoute, je n'ai pas ce qu'il faut pour faire ça, etc. Il me disait, voyons donc, tu es capable. Tu as ceci, tu as cela. Il m'obligeait à me regarder avec mes plus. Puis il me faisait oublier mes moins. Alors, et finalement, il m'a accompagné comme ça toute ma vie. Et comme père de mes enfants, c'est un homme extraordinaire. Mais quand on se racontait tout à l'heure que je voulais, j'étais pas certaine de vouloir avoir des enfants, puis qu'on a eu des enfants, j'avais 29 ans, ça faisait déjà presque 10 ans, 9 ans qu'on vivait ensemble, c'est parce que je voulais aussi... C'est jamais certain dans la vie, tout ça, mais je voulais quand même... croire qu'on pourrait vivre ensemble le plus longtemps possible pour prendre soin de nos enfants.
C'est ça.
Et puis, je blâme absolument pas les personnes qui se séparent, qui divorcent, pour toutes sortes de raisons, tout à fait. Mais moi, j'espérais être capable de vivre ce couple-là, cette vie de couple et ayant des enfants, puis être capable justement de les accompagner jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Et l'autre chose, ben, il fallait qu'ils partagent des tâches. Parce que, un, moi, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait.
Il fallait le tester sur de nombreuses années.
Oui, oui.
Avant de dire, nous procréerons.
C'est ça. J'aurais jamais fait ce que j'ai fait s'il n'avait pas été là. Écoutez, bon, il a pris soin des enfants comme de façon exceptionnelle. En fait, je ne devrais pas dire exceptionnelle. Tous les hommes devraient faire ça. À partir du moment où on décide d'avoir des enfants ensemble, on en prend soin ensemble. Si on se sépare, on divorce, on partage et puis on se donne un coup de pouce. Moi, mon conjoint, il a fait les lunchs pendant probablement 10 ans de temps, là, parce qu'évidemment, ils ne sont pas tous arrivés en même temps à l'école. Là. Alors, ils prenaient l'autobus scolaire, ils allaient dans le système privé, public. Ils faisaient des lunchs, tous les lunchs, avec la baguette le matin, avec le petit jus, le fruit, le légume, etc. Aller chez le médecin, aller chercher les bulletins à l'école. Il n'y a pas de chose qui n'a pas fait leur faire la bouffe à la maison. Les amener, il est allé au football.
Ce qui n'était pas automatique pour l'époque.
Non, non. Non. Il est allé à toutes les parties de football de mes deux fils qui jouaient au football. Moi aussi, j'y allais, mais pas mal moins souvent que lui, parce que j'étais trop occupée. Mais c'était un père formidable.
Vous disiez avoir les compétences de faire le... Quand on a d'aussi grandes responsabilités, il y a certainement des moments où on doit, quand on est seul devant le miroir, quasiment avoir le syndrome de l'imposteur en disant « c'est-tu moi qui t'en es de faire ça? » Et là où je suis curieux de rentrer dans votre tête, le matin... du jour où vous devenez enfin première ministre, vous êtes dans le coin de Québec et vous prenez une marche, vous êtes toute seule.
Oui, je me souviens très bien de ça.
S'il y a un billet de voyage que j'aimerais me payer, là, c'est de rentrer dans votre tête pendant que vous marchez. Et là, vous le savez, là, faites Pauline, asseoir, tu deviens PM. C'est toi qui vas avoir ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête?
Dans la tête, je vous dirais, c'est... Je ne sais pas prétentieux ce que je vais vous dire, mais c'est comme un aboutissement logique d'un engagement que j'ai depuis si longtemps. Vous savez, à 20 ans, j'ai rêvé de faire de la politique, mais après ça, j'ai mis ça de côté parce que je trouvais que c'était bien trop compliqué. J'ai eu des moments difficiles, etc. Puis j'ai commencé vraiment à penser que je pourrais un jour occuper cette fonction-là, assez tard finalement, parce que quand je me suis présentée suite au départ de M. Lévesque... J'y allais pour présenter mes idées. Je ne pensais jamais gagner. Après ça, ben, ça a pris forme dans ma tête, etc. Mais ce qui n'est pas prétentieux, c'est de dire que j'étais préparée pour faire ça. J'avais un bagage extraordinaire derrière moi. Puis en même temps, j'avais encore aussi cette espèce de doute. Est-ce que je vais être capable d'être à la hauteur de tout ce que ça exige? Mais il y a une chose, je savais que j'avais au moins, en tout cas, des bases très solides, une expérience très... et très vaste, me permettant d'occuper cette fonction-là.
On vous a appelé la dame de béton?
Oui. Ça, c'est Stéphane Laporte là, qui a écrit un superbe article là-dessus.
Je regardais le week-end dernier The Crown, où on voyait la dame de fer.
Oui.
Vous avez un point en commun, si on se fie à la série. Elle recevait son monde chez eux.
Oui.
Elle cuisinait pour ses ministres, ses attachés politiques.
Je faisais tout ça, moi.
Puis, c'est un peu ça chez vous aussi, hein?
Oui, oui. Ouais. Mais le premier budget qu'on a préparé, je pense le deuxième aussi, mais le premier budget comme ministre des Finances que j'ai préparé, j'ai réuni mon équipe de cabinet qui travaillait sur le discours du budget. Et puis, on a passé une journée et demie, deux jours ensemble. J'ai fait de la poule au pot. C'est un poulet là, avec des légumes et tout. La pomme de tapilé, je me souviens. Et effectivement, parce que ça fait convivial, puis à ce moment-là, les échanges sont plus faciles, puis c'est important, parce qu'un discours du budget, ça a beaucoup d'influence sur la vie de nos concitoyens. Alors, voilà. Et oui, et puis je faisais des grands parties de Noël, puis je faisais la moitié de la bouffe du party de Noël quand j'organisais des parties où j'invitais mes collègues ou les amis. Mais ça fait partie... Golda Meir faisait ça aussi. Hein. Ça fait partie du plaisir qu'il y a à rencontrer des gens, puis à dire, ben écoutez, je vous aime assez pour vous faire la bouffe, hein, pour vous inviter à ma table.
Et c'est pas que les gens politiques. J'ai l'impression que par moment, en lisant votre biographie, que chez vous, il y a eu des années d'auberge espagnole.
Oui. Il y a eu des années, plusieurs années d'auberge.
Les enfants qui restent longtemps, parce qu'ils sont bien,
les enfants
sont aux études.
Les garçons avec leurs conjointes sont tous restés à la maison pendant 5 ou 6 ans, pour ne pas dire davantage. Bon, nous, notre règle de base, c'était On va vous supporter complètement tant que vous êtes aux études. Après ça, on vous donnera le coup de pouce qu'il faut. Mais
fait qu'ils ont étudié longtemps.
Mais ils ont étudié longtemps. Ben, il y en a qui ont joué au football. Il y en a qui ont joué au football longtemps. Fait qu'ils ont étudié longtemps. Mais c'était... Et puis, en plus, j'ai une nièce qui est venue vivre à la maison. Elle a fait un cours ici au Cégep du Vieux-Montréal en photo. Et puis, ça, elle préférait cette formation-là à d'autres ailleurs. Elle est venue au Cégep. J'avais un neveu qui est venu, qui était plus du côté de mon conjoint, qui est venu faire Polytechnique, puis dans le domaine du multimédia. Il a vécu chez nous. Il y avait toujours beaucoup de jeunes. Et puis, mes garçons qui vivaient avec leur conjointe à la maison. Puis, en autant que tout le monde participait aux affaires, là, dans la maison aussi. Bon, c'était illégal un peu, mais c'était correct. Mais oui, c'est une auberge espagnole, mais quel plaisir!
Ben oui!
Parce qu'on s'assoyait autour de la table, puis on causait de plein de choses. Imaginez pour des parents d'avoir des jeunes dans leur vie, ça nous garde jeunes, ça nous laisse brancher sur ce qui se passe dans la vie quotidienne de ces jeunes-là qui sont à l'aube de leur potentiel, de leur réalisation.
Vous me disiez juste avant qu'on commence à enregistrer le balado, je disais que j'ai passé la fin de semaine avec vous, que j'ai lu le livre. Mais vous écoutez, pour les gens qui nous écoutent, ça ne vous dit pas de lire le livre physique, il y a maintenant cette tendance de faire des livres audio.
Oui.
Et là, ce n'est pas une comédienne, là.
C'est
Pauline Marois qui raconte sa vie. Ouais. Ça a dû être tough de narrer certains bouts.
Oui, je vous racontais ça, d'ailleurs, je peux le redire. Il y a des phrases que je n'étais pas capable de prononcer sans que l'émotion
le
moton m'arrive dans la gorge. J'étais obligée de recommencer quelques paragraphes. J'avais un jeune homme qui m'accompagnait, qui était absolument exceptionnel. Je disais, non, là, on recommence. Parce que je n'étais plus capable, puis la voix me cassait, finalement. J'ai beaucoup aimé cette expérience-là, parce que ça m'a permis de mettre de l'émotion, justement. Là où il fallait en mettre, et puis de jouer avec le ton. Comme j'ai eu 4 enfants, et j'aimais ça raconter des histoires, même si des fois je m'endormais avant qu'eux s'endorment, parce que j'étais trop fatiguée, mais je mettais beaucoup de ton dans les histoires que je racontais. J'ai toujours aimé ça. Alors donc, oui, c'est les gens qui l'ont écouté m'ont dit avoir aimé. Ah, évidemment, moi, j'ai aucune objectivité. Alors, c'est ça aux gens d'en décider.
Pauline Marois, merci beaucoup de vous être déposé dans notre balado. On demande aux gens en terminant, puis les personnes que j'invite, c'est parce que je sais qu'ils ont envie profondément de le dire, de simplement dire le nom du balado, parce que je regarde votre sourire, je regarde vos yeux, et je sais que vous avez envie de le dire, que vous avez envie de crier que...
La vie est belle. Tellement belle.
C'était La vie est belle. À la prochaine.